Bienvenue sur Micro Standard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Adaga. Cabo la barre. Zona. Rancard.
Bazar.
Hola, boutonneux, boutonneuse, daron, daronne et tous les autres. Vous voici avec Hélène et Magali, et en compagnie de toutes les chroniqueuses et tous les chroniqueurs du Micro Standard. Pendant cette heure d'émission sur RNB, nous questionnerons sur l'adolescence, une étape importante dans la vie humaine, une période de transformation vécue plus ou moins violemment. À tel point que nous parlons souvent de crise d'adolescence. Un bouleversement caractérisé par une contestation de l'autorité, des transformations corporelles, la découverte de la sexualité.
Bien des gens parmi vous se demandent encore si le Viagtol est plus efficace que l'eau précieuse. Franchement, nous n'en savons rien. Et cette émission n'apportera pas de réponse à cette question. Par contre, Michael et Thierry donneront un coup d'œil dans le rétro pour s'intéresser à l'adolescence d'hier et d'aujourd'hui. Maria, quant à elle, chroniquera trois bouquins sur ce thème. Ensuite, nous retrouverons notre poète Thierry, avant d'accueillir Yann Audran, infirmier dans le service pédopsychiatrie du centre hospitalier de Morlaix, pour une rencontre. Puis, place au micro-trottoir de Bertrand, Magali et Maria. Et ensuite, je vous proposerai ma rubrique « Quel ado ces artistes ?». Avant toute chose, écoutons nos ados du jour, un reportage de Magali à l'Andivisio.
Nous sommes au skate club à l'Andivisio, à côté de la maison des loisirs. Un samedi, il y a des jeunes qui sont en train de skater, ou de faire du skate, je ne sais pas comment on dit. Là je vous vois avec des espèces d'instruments de mort, je ne sais pas comment vous appelez votre engin là.
Trottinette.
Une trottinette, d'accord. Bon, trottinette. Ça fait longtemps que vous en faites ?
Ça fait 2 mois.
Mais 2 mois. Est-ce que vous avez commencé quand vous avez été ado? Ou est-ce que vous en faisiez déjà avant? Non, est-ce que vous savez ce que c'est l'adolescence? Ça veut dire grandir, tout simplement. Adolescere, c'est grandir. Donc en fait, c'est la transition entre l'enfance et le passage adulte. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est comment vous le vivez, vous, votre adolescence? Vous vous sentez adolescent?
Non. Je me sens plutôt adulte.
Ouais, tu te sens plutôt adulte. Pourquoi? C'est une blague. À quel âge, à votre avis, ça commence l'adolescence?
Bah oui, à 12 ans, 13 ans.
Ça dépend des personnes.
Pourquoi?
Bah, il y en a qui sont gamins dans leur tête.
Ils sont immatures.
Immatures? Ouais, mais qu'est-ce qui vous amène à la maturité, alors?
Les poils qui poussent.
On a des poils.
Les poils?
Les poils?
Je sais pas. On réfléchit pas à ça en fait.
Plus de liberté.
Ouais, déjà, ouais. Plus de liberté peut-être. Ouais.
Tu as quel âge?
Moi j'ai 13 ans.
À quel âge tu as commencé ton adolescence?
J'en sais rien.
C'est quoi pour toi l'adolescence?
C'est le moment où on sait qui on est. On devient la personne qu'on veut être.
Non, c'est du bruit.
Non.
C'est... Qu'est-ce que vous faites comme activité en dehors de l'école?
De l'endormir.
Oui, aller sur les réseaux sociaux.
Non, pas de sport.
Qui fait du sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport?
De la danse et du hand.
À votre avis, ça commence vraiment à quel âge?
Ça dépend.
Et par quoi?
Ça dépend des personnes.
Ça dépend filles, garçons, à ton avis?
Ouais. Les filles, ça commence plus tôt que les garçons et ça finit plus tôt aussi. Les garçons commencent plus tard.
Et vos relations avec vos parents, alors comment ça se passe?
Ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de disputes, oui, parce qu'on s'affirme. Du coup, il y a plus de disputes.
C'est pareil pour toi?
Non, moi ça va.
T'as des relations faciles avec tes parents?
Moi ça va, ouais.
Et toi?
Ça va aussi.
D'accord. Bon, et bien, je vous remercie.
Des classeurs de lycée, y a tes rêves et tes
secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne.
Diabolo Montre, une chanson d'Yves Simon qui vous aura peut-être marqué. Les confessions d'une adolescente. C'était en 1978. Bonjour Michael et Thierry.
Bonjour Hélène, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices.
Alors, vous avez planché durant plusieurs nuits blanches sur votre histoire de l'adolescence ? Michael, peux-tu nous parler de la naissance du mot « adolescent » ? Une dénomination qui n'a pas toujours existé.
Oui, Hélène, nous allons essayer de remonter le temps sur notre thème de l'adolescence. Le concept d'adolescence, dans son acceptation moderne, remonte au 19e siècle et est lié au développement de la scolarisation avec la loi de Jules Ferry, qui instaure l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Ce qui est certain, c'est que de tous les temps, et dans toutes les cultures, ce passage de l'enfance à l'adulte a été accompagné de rites initiatiques. Et que ceux qui officialisent le changement de place du jeune au sein de la société des humains, dans notre culture judéo-chrétienne, les rites religieux tels que la confirmation et la communion solennelle signifiaient à l'enfant qu'il entrait dans cette zone de turbulence. En tout cas, qu'il n'était pas tout à fait un enfant. Plus récemment, il y avait l'entrée au collège et les premiers émois amoureux. Quelques années plus tard, d'autres rites indiquaient la sortie vers le stade adulte. Le service militaire pour les garçons, le mariage pour les jeunes filles, le premier emploi, le départ du domicile familial ainsi que la parentalité. Ainsi, l'enfant passe de l'adolescence à l'âge adulte d'une manière plus accompagnée, si l'on peut dire. L'enfant a donc plus de temps pour se préparer à sa vie adulte. Voici quelques exemples de rites à travers le monde. En Afrique, l'enfant devient adulte après différents rites qui peuvent être l'isolement ou des marques physiques correspondant à des étapes ou encore des cérémonies religieuses. Autre exemple, celui des Quinceañeros d'Amérique du Sud, où la fille devient femme le jour de ses 15 ans. Une immense fête est alors organisée pour cette occasion. Enfin, distinguons la Bar Mitzvah chez les Juifs. C'est le passage à l'âge adulte à 13 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles. De tout temps, l'ado a été en quête d'identité. Nos ados se cherchent, se découvrent, s'identifient, se comparent. Ils cherchent partout ce dont ils ont besoin. Si le garçon se tourne professionnellement vers des métiers physiques, les filles, elles, doivent concilier ou faire le choix entre travail et vie de famille. D'autant plus que l'horloge biologique est là pour le leur rappeler. Alors Thierry, revenons à notre époque. Comment se comportent les ados d'aujourd'hui ? Leur situation a-t-elle vraiment évolué ?
Merci Michael. Beaucoup de rites donc permettraient le passage de l'adolescent à l'âge adulte. On poursuit avec toi Thierry. T'es-tu fait observateur des ados d'aujourd'hui ?
Oui, en effet. C'est vrai, j'ai réfléchi sur notre époque contemporaine. C'est quoi être un ado de nos jours ? C'est laisser traîner ses affaires un peu partout ? C'est jouer aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin ? C'est passer des heures sur l'ordinateur ou sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être tout cela à la fois. Ce qui est sûr, c'est que les ados ont bien changé. En effet, qu'est-on en droit d'exiger de l'ado dans la famille ? Avoir de bonnes notes à l'école, participer au ménage à la maison, être à l'écoute des autres membres de la famille, et surtout ne pas faire trop de bêtises. En fait, chaque parent a ses exigences, mais tous les parents veulent réussir l'éducation de leurs enfants et les armer suffisamment pour leur future vie d'adulte, ce qui est loin d'être évident de nos jours. Les parents sont quand même souvent perturbés pendant cette période. Ils ne savent que faire et sont parfois désarmés face au comportement de leurs ados. Ainsi, de plus en plus vont chercher de l'aide dans les centres de pédopsychiatrie. Beaucoup de parents manquent de cette autorité qui permettrait à l'ado de s'épanouir avec des repères. Certains adolescents manquent totalement de respect envers leurs parents et leur parlent d'une manière outrancière, parfois même avec violence. Les parents ne savent plus quoi faire et font juste le dos rond en attendant que cet âge ingrat passe. Je me dis qu'il faut sans doute faire des concessions des deux côtés et essayer de gérer au mieux cette période car elle est déterminante pour le futur adulte. Et en plus, même un enfant qui semble bien éduqué ne fait pas forcément un ado facile. Les rites de passage de l'enfance à l'âge adulte ont bien changé et les parents ne sont pas toujours au fait de ces nouveaux rites. Parfois, ils ne les comprennent même pas du tout. Les apéros géants, les soirées cartables, les rêves partis en pleine campagne. Toutes ces soirées de rites collectifs sont généralement bien alcoolisées. Dans un autre registre, l'épreuve du bac ou autres bizutages d'école font aussi partie de ces nouveaux rituels, comme le permis de conduire. Cependant, les ados ne vivent pas ces passages au même moment. Chacun a son chemin.
J'étais trop bon avec toi lorsque tu as abandonné lâchement tes études. Tu aurais pu aller jusqu'au bac pour faire plaisir à ta pauvre mère. Et puis, si tu avais eu ton bac, tu aurais pu rentrer. Tu aurais pu être... chômeur, oui. Mais au moins, tu aurais été un chômeur à la tête. Oh là là, ça! Monsieur fume du haki-kik avec les biclites! Fais attention, Gérard! Fais, monsieur! Tu es sur une pente savonneuse! Savonneuse! 3 ans, l'expérience d'un vieux routier. Sympa! Aujourd'hui, c'est un petit verre qu'il te faut, mais demain, tu en feras tout un paquet. Sans parler que de compter de la honte qui retombera sur ta pauvre mère. Oui, ben moi, je m'arrange. Je te demande pas ton avis. Je m'arrange avec la honte. S'il te plaît, je traite directement. Je te demande... C'est pas moi qui suis en cause. Bon, s'il te plaît, Gérard!
C'était, vous l'avez peut-être reconnu,
Gérard,
un sketch de Coluche. Tu le connais ce sketch, Maria ?
Oui, bien sûr, c'est super connu.
Alors Maria, nous partons en ta compagnie au rayon ado de ta bibliothèque.
Eh oui, amis lecteurs, amis lectrices, la période de l'adolescence n'est pas forcément synonyme de crise. Elle peut être aussi source de créativité artistique. Je pense en particulier à Françoise Sagan qui nous livre en 1954 son premier roman, « Bonjour Tristesse », elle est alors âgée de 19 ans. Très novateur, très moderne, ce roman a fait scandale en parlant de sexualité de manière désinvolte. Ça se lit facilement, belle réussite pour une première création. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le parallèle qui est fait entre la débauche du père et la perversité de sa fille Cécile, alors âgée de 17 ans. C'est dérangeant, mais c'est agréable à lire. Quittons à présent la grande bourgeoisie pour retrouver l'ambiance de la cité avec Faïza Gwen, qui avec Kif Kif Demain, signe en 2004 son premier roman. Elle n'a alors que 19 ans. La jeune romancière raconte la vie difficile d'une famille marocaine en France. Elle y parle aussi avec beaucoup d'humour de ses premiers émois amoureux. En parlant de Nabil, son prétendu fiancé, elle dit ceci, je cite, « Je me suis dit que quand il reviendrait, je serais capable de lui dire mes sentiments qui s'embrouillent chelous à l'intérieur de moi. » Bref, j'étais prête, quoi. Et lui, ce petit con agnéique, il revient de vacances tout bronzé et il ne me connaît plus. Comme vous pouvez le constater, c'est drôle mais aussi très réaliste, car la période de l'adolescence, c'est aussi les premières désillusions amoureuses. Enfin, pour terminer ma chronique, j'évoquerai le roman de François Bégodeau, Entre les murs, paru en 2006. C'est passionnant à lire. D'un côté, le ressenti des collégiens et de l'autre, celui des professeurs. En banlieue, encore plus qu'ailleurs, il y a un décalage, un manque de communication entre ces deux mondes. Un extrait à présent, là c'est un professeur qui parle. Je cite « J'ai demandé à Idrissa de sortir ses affaires, il ne les avait pas. Il s'est levé pour emprunter une feuille à un camarade et l'a giflé avec son bonnet après son refus. J'ai alors demandé à la déléguée de classe d'aller chercher monsieur le principal. Idrissa a alors dit « C'est ça, va chercher Dieu ». Certains ados sont en pleine révolte de tout. Ils refusent toute forme d'autorité. Les enseignants sont souvent désarmés car ils ne peuvent pas donner leurs cours dans les meilleures conditions. Certains sont sur le point de craquer complètement au bout du rouleau. Je cite « Je peux plus les supporter. C'est même pas les troisièmes que je vais demander à plus avoir. C'est tout le monde, voilà. Je vais aller voir le principal et je vais lui dire que je prends plus d'élèves d'ici la fin de l'année. Sinon, je te jure, je vais en tuer un. Il va faire la gueule, le principal. » Je pense que le corps enseignant est dépassé par les événements. À mon époque, on y croyait encore, on avait un peu d'espoir. Aujourd'hui, les jeunes n'y croient plus et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Crise, chômage, être diplômé peut même devenir un handicap. À méditer tout ça. Bonne lecture à toutes et à tous.
Chercher le garçon. À Micro-Standard, nous avons retrouvé le poète. N'est-ce pas Thierry ?
Oui, tout à fait. Un peu de poésie dans ce monde de brut. L'adolescence. Ah, l'adolescence. Les premiers émois. Sortis de l'enfance, on devient des rois. Les premiers boutons. La puberté juvénile. Sortis en boîte au réveillon. Premier baiser futile. La mobilette devant le garage. La cigarette avant d'avoir l'âge, la petite amie qui poirote sur le trottoir avant les autres, les posters de stars sur les murs, les recommandations de ma mère, les premières fois la luxure, ce qu'on peut faire en douce, passer par la porte de derrière pour regarder cette frimousse, pour pas réveiller les parents, avide de musique à ce boucan, ne pas savoir quoi faire comme métier plus tard. Danser en avoir les nerfs, juste pour pas être en retard. Les copains, les copines, les premiers joints à la bibine. Avoir l'impression d'être grand, ne pas passer pour un gland.
Fauteuil VIP.
L'invité de Micro-Standard.
Bienvenue à Yann Audran, invité spécial de cette émission Micro-Standard, consacré à l'adolescence.
Bonjour Yann.
Bonjour.
Vous êtes infirmier dans le secteur de la pédopsychiatrie du Centre hospitalier des Pays de Morlaix. Pouvez-vous nous présenter votre fonction et le service dans lequel vous travaillez ?
Donc voilà, je travaille depuis 8 ans en pédopsychiatrie dans un service qui accueille des adolescents de 10 à 16 ans. C'est un service dit de crise qui accueille des enfants et des adolescents, donc sur une période normalement assez courte. Voilà.
Justement, ces ados qui arrivent chez vous, quels sont les signes d'un ado qui va mal?
J'ai envie de vous dire que les signes peuvent être multiples, mais ce qui nous frise l'oreille, ce qui nous inquiète, ce sont surtout des positions de retrait. Et aussi le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir avoir des liens amicaux suffisamment conséquents.
Et donc ces faits qui sont observés vous sont rapportés par qui vous signale un adolescent en souffrance?
Donc, généralement ce sont les parents ou les tuteurs des enfants. L'école aussi, par le biais de l'infirmière scolaire, du médecin généraliste, ça peut être aussi des réseaux tiers qui peuvent épauler, accompagner les adolescents jusqu'à notre service. De toute façon, il y aura un rendez-vous devant le pédopsychiatre qui pourra justifier d'une entrée ou non dans l'unité de soins. Mais il s'agit vraiment des situations vraiment pour lesquelles les adolescents souffrent assez gravement. La plupart des cas, je crois à peu près une population de 36 000 enfants sur le secteur de Morlaix, la majorité des ados vont bien.
Et alors l'ado qui arrive en psychiatrie, comment, dans quelle situation il est quand il arrive plus précisément?
Mais c'est forcément une situation de crise. Mais crise, c'est forcément une situation difficile, chargée de culpabilité pour les parents. C'est forcément une situation délicate. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que parfois la crise peut être utile dans le sens où la crise, ça va être aussi ce qui va faire levier pour changer de situation. Cette crise-là, il faut parfois savoir l'accepter, savoir l'accompagner et savoir se dire que peut-être que grâce à cette crise, si on s'en occupe bien, si on est assez à l'écoute de ce qui fait souffrir, peut-être que cette crise va pouvoir permettre à l'enfant de devenir adolescent, de trouver d'autres repères et on va pouvoir mettre en mots ce qui était difficile à vivre et ce qui faisait justement que la crise était importante. Et peut-être que cette culpabilité-là qui peut être portée parfois par des situations graves au sujet de et qui peut nécessiter une hospitalisation, eh bien on peut la porter comme ça à plusieurs. Alors l'utilité d'un service en pédopsychiatrie, c'est bien aussi de s'occuper des parents, parce que quand il y a crise adolescent, les parents sont aussi derrière eux en crise aussi, et ça on le dit assez peu. Des parents d'adolescents, ce ne sont pas les mêmes parents que des parents d'enfants. C'est-à-dire que à la fois l'enfant change, mais à la fois le système familial doit lui aussi changer. Et ça, c'est quelque chose qui s'accompagne. Et le service dans lequel je travaille, par le fait de la séparation du fait de l'hospitalisation, puisqu'elle est physique cette séparation, on va pouvoir accompagner cette crise.
Merci Yann pour ces premiers éléments de réponse. Nous vous retrouverons dans un instant pour poursuivre cet échange. En attendant, peut-être avez-vous eu l'occasion de croiser trois de nos reporters, Magali, Maria et Bertrand. C'était lors du forum des associations de Morlaix à Langolvas, il y a quelques semaines de ça. Ils baladaient leur micro à la recherche de votre adolescence. Écoutons-les.
Pouvez-vous fredonner la chanson de votre adolescence ?
Alors, le ciel est rouge, il fera beau, dans l'homme bouge un cœur nouveau. C'est l'abbé
Duval.
Duval, le père Duval. Voilà. Alors, c'était
tout à l'heure la calotte chante.
Ma fille sur cette tresse a laissé se poser. La main qui la caresse d'un noir pour l'épouser. Ma fille sur cette tresse a laissé se poser. La main qui la caresse d'un noir pour l'épouser. Le ciel est rouge, il fera beau. Dans l'homme bouge un cœur nouveau. Voilà, le père Duval. Bravo.
Paul Gilbert. L'album Acoustic Samouraï. Oh,
tu vas fredonner quelque chose?
Bah c'est de la guitare acoustique. Les séries, surtout les séries américaines HBO. J'ai commencé par Oz, qui est une série sur les prisons américaines. Et après ça, j'ai suivi
Chalawa. Sexball. Non, Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
Ah ouais.
Oui, Chalawa de Yannis Odua. Ça tue.
Je connais pas.
C'est du reggae français. Mais je fais partie de ce qu'il a légalisé déjà. Ja, cha, la, 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 wa. Non, vous connaissez pas.
Non. On est d'une autre génération en fait.
Surtout aussi. La chanson dans la dure. Alors.
Le titre à défaut.
Ouais, non, mais le titre à défaut, non, mais je l'ai trouvé. Bon, c'était pas mon adolescence, mais c'est la seule qui me vient à la tête. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé le rhum coca. Non, c'est pas celui-là. Mais comme t'étais toujours pas là. Enfin, je sais plus, je ne fais que des bêtises quand t'es pas là. Voilà. Mais j'étais pas ado, mais j'ai embêté ma mère avec ça, elle m'a fait une cassette entière à l'époque.
Ma mère m'a dit, Antoine, c'est toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, mais parce que je trouve ça beau et parce que ça me plaît. Oh yeah.
Bien sûr, Lion, like Lion, is Zion. Lion, like Lion, is Zion. Iron Lion, Zion, de Bob Marley.
Yes, super. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours. Après, je me rappelle plus.
Celui que tu as aidé.
Quelles sont les séries ou les posters de votre adolescence?
Moi, j'ai eu beaucoup de posters de Quentin Tarantino dans ma chambre. Et,
ouais.
Oui. Et 14 ans.
D'accord.
Et sinon, vu qu'on fait du cirque tous les deux, j'ai pas mal d'affiches de spectacles. Ouais.
Eh bien, Clo-Clo, Elvis, Johnny, les Beatles and the Rolling Stones.
Madonna, entre autres. Et sinon, beaucoup de mangas. Par exemple, Dragon Ball, des choses comme ça.
Yann Audran, nous nous retrouvons à présent. Et vous, pouvez-vous nous chanter la chanson de votre adolescence?
Alors, je ne vous chanterai pas, mais c'était très bruyant et très électrique. Vous voulez des noms de...
Oui, je veux bien. Vous
ça s'appelait Metallica, ça s'appelait Offspring, ça s'appelait des choses comme ça. Je crois que ce n'était pas génial, mais ça faisait beaucoup de bruit et ça me faisait beaucoup de bien.
C'est ce qui vous plaisait?
Ouais.
Donc, je vais vous poser quatre questions. Pourquoi avez-vous fait ce choix de travailler auprès donc, du public des adolescents?
Ça s'est construit depuis ma formation d'infirmier. Ça s'est développé petit à petit. Et c'est vrai que le public de l'adolescent a ceci d'intéressant que... Il est en perpétuelle évolution et il y a une certaine dynamique. Alors c'est vrai que les adolescents sont parfois plus impulsifs, on le sait ça, dans le passage à l'acte, dans le fait de plutôt marquer des actes plutôt que de verbaliser les choses. Mais ça reste intéressant dans le côté vivant, dans le côté dans le côté un peu pulsionnel comme ça. Les choses se développent assez rapidement en fait.
Et donc quelles sont les problématiques les plus fréquentes?
Les problématiques les plus fréquentes, elles sont assez diverses, mais quand même le marqueur, comme je le disais tout à l'heure, c'est le retrait scolaire, quoi. Le fait de plus pouvoir aller à l'école, je crois qu'assez souvent, c'est ce qui en tout cas met une limite là de ce que peut supporter le climat, l'environnement familial, c'est ce qui peut amener une hospitalisation, quoi.
Êtes-vous confronté à des conduites addictives?
Alors, les conduites addictives, c'est vrai qu'on en parle souvent avec les adolescents. On associe ça, les consommations toxiques. On peut souvent l'associer à des problèmes addicts d'adolescents. Nous, dans le service, c'est vrai que on voit ça plutôt comme le symptôme de quelque chose, quoi. Ça va pas être tant le fait de consommer du cannabis qui va nous inquiéter, par exemple, mais plutôt ce pourquoi le jeune en a besoin et comment est-ce que ça résonne pour lui, en fait. Comme je vous le disais, les services de soins en pédopsychiatrie ici dans le service de Morlaix s'arrêtent à 16 ans. Donc c'est vrai que ce sera plutôt la tranche 15-16 ans qui est plutôt on va dire les ceux qui sont plus tentés pour ce genre de consommation. Bon voilà, j'aurais du mal à répondre précisément à cette question, mais c'est vrai que les addictions existent.
Et quelles actions et moyens sont mis en place?
Ben, la séparation déjà me semble importante. Quand un jeune est hospitalisé dans notre service, la première semaine, les contacts sont réservés à des contacts par le biais, par le tiers des infirmiers et des rendez-vous médicaux. Donc c'est vrai que ce temps-là d'une semaine où l'adolescent se retrouve face à lui-même et que la séparation de l'environnement familial se fait vraiment physiquement, puisque il n'y a pas d'appel par exemple, ce temps-là il est vraiment consacré à l'enfant et à l'adolescent qui est en devenir. Bon, mais après, les prises en charge sont vraiment très personnalisées, donc ça va vraiment dépendre de la problématique de chaque adolescent.
Et donc, quand on accompagne un ado, doit-on également accompagner la famille?
Oui, ça, j'en suis persuadé. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. On parle souvent de crise d'adolescent, mais c'est aussi une crise familiale, puisque ça a forcément des répercussions sur la fratrie, sur les parents. Et tout ça, c'est un mouvement qui est un peu comme des engrenages qui va forcément avoir des conséquences sur l'environnement proche de l'adolescent, quoi.
Un grand merci, Yann, pour votre disponibilité. Au revoir et à très bientôt.
Merci de votre accueil.
À l'écoute du micro standard.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, une incursion dans le monde des ados d'aujourd'hui avec Section Tasso.
Tout ce qu'on vit, qu'elle ressent dans son gratte et son gratte. Tu le comprends même si t'as pas le bac. Tout notre diable, tu le ressens dans nos sons. Et nos sons dans ta tête font l'effet d'un flashback. Tu le ressens dans nos écrits quand on est d'humeur aigrie. Tu le ressens comme quand les gars de la batte passent. Sans comme le mépris que les gens sentent pour les prix. Sonny avec qui les juges ne blaguent pas.
En ce moment j'ai pas d'arbre, non. Tu le ressens dans mes sables, j'avoue j'ai hâte. Mais j'ai l'impression que le temps m'échappe. Je mange pas beaucoup, tu le ressens dans mon haleine. Mais quand je vais tout niquer, ça va sentir dans les annales. Section d'assaut, ça arrive, tu l'as senti. T'étonnes pas si ça pète dès la première semaine de la sortie. Moi c'est le va, tu le ressens dans ma démarche. Tu le ressens aussi quand je viens squatter chez toi pour mater le match. J'ai toujours pas de caisse, ça se ressent dans mes paires. Maintenant mes payes vont toutes passer dans le mi-père. Attends l'hiver, tu vas sentir la patate, cousin. Donc pense à ceux qui ont pas de toi, pire encore pas de cousin. Le seum, je l'ai senti dans les yeux d'Adélé. Point serré devant les reportages du net ou ceux de la télé. Je sais pas si tu l'as senti, mais t'éveille sur par satellite.
Pas de hasard, pas de cafard, restez sur Micro Standard.
Nous allons retourner à la fête des associations en compagnie de nos trois acolytes, Bertrand, Magali et Maria.
Quel genre d'ado étiez-vous?
Ah ben, j'avais envie de m'amuser, d'aller au bal. Et je commençais à avoir envie de militer sur l'environnement, des choses comme ça, des choses plus sérieuses. Et bon, autrement, j'étais en recherche de beaucoup de choses. J'étais en recherche de beaucoup de choses, quand même, comme beaucoup d'ados à cette époque-là. Voilà.
Et donc, vous avez commencé à militer, en gros, vers quelle année à peu près, quoi?
65 à peu près.
Ah oui, avant, ouais. Ouais. Avant 60... que l'écologie devienne...
Oui.
Devienne entre guillemets à la mode. Donc vous êtes une véritable écolo.
Écologie, végétarisme, toutes ces choses.
Quel genre d'ado étiez-vous?
Calme, en fait j'ai fait du sport de haut niveau, donc très, très cadré, très organisé en fait. Voilà. Pas beaucoup de sorties puisque je faisais beaucoup de sport. Mes vacances, j'étais en stage d'entraînement et les week-ends en compétition. Et une belle adolescence, mais pas voilà, organisée puisque c'était lié au sport.
Timide et renfermé, mais j'avais pas mal d'amis quand même.
Moi j'ai tendance à être un peu hyperactive, mais non, enfin... Je suis ado, quoi.
Oui, alors, pas rebelle.
Non. On a tous des périodes rebelles de toute façon. Donc,
ouais. Quel genre d'ado étiez-vous?
Calme. Ouais, non, oui, je sais, j'ai une tête de très bizarre aujourd'hui avec mon bonnet de hockey sur la tête. Mais non, j'ai jamais fait trop la jaille le soir et j'étais assez sage et assez braqué sur mes études. Il fallait faire mes études et puis après on verrait pour le reste. Maintenant que je suis diplômée, je peux faire le sport ce que je veux. Et...
J'étais une ado très solitaire, très renfermée. Heureusement, il y avait le dessin, la photographie, la danse et la musique.
Alors, j'étais un ado révolté, en phase avec moi-même. J'écoutais beaucoup de heavy metal, comme Metallica, AC/DC, Iron Maiden. J'étais révolté. J'étais un des premiers ados à me faire percer les oreilles. Chemise déchirée, cheveux longs, grâce à un clou, et bien sûr, bandana dans les cheveux, comme mon idole, Axel.
Bala cool, plutôt.
Ouais. Avec jupon.
Oh, je n'osais pas le dire.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez transgressé ou fait le mur?
J'étais loin de mes parents et je savais que c'était pas dans leurs idées et j'ai adhéré à un parti qui ne faisait pas trop plaisir à mes parents. À mon père peut-être, d'ailleurs il en avait fait partie. Et peut-être, mais bon, ni à ma mère ni à toute la famille autrement. Voilà. Bon, c'est pas Le Pen, c'est tout le contraire.
Est-ce que vous avez déjà transgressé ou fait le mur?
Oui,
oui. oui, clairement.
Premières, on
franchement, oui.
Et en quelle occasion?
Il y a ta mère à côté. Hein. c'était pour... je dormais chez une amie et puis il y avait une fête avec d'autres amis dehors et puis on est sortis, voilà.
Oui, pareil.
Et on est rentré quand les parents se réveillaient.
D'accord.
Fais le mur. Oh, bah oui, j'avais 6 ans. C'était aux Ursulines de Saint-Paul-de-Léon.
Je n'ai jamais transgressé. J'étais l'enfant moderne.
Toutes mes condoléances. Vous souvenez-vous de ce qui vous a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte?
Oui. Bon, on dit mon nom ici?
Non.
Non. Ah, si on ne dit pas mon nom, ça va. Je n'ai pas besoin qu'on connaisse toute ma vie. Eh bien, j'ai eu un enfant avant qu'on puisse en avoir. Alors là, ça a culbuté tout d'un coup. Ça a été l'âge adulte.
Bon, je pense que c'est l'entrée à l'université. J'avais à peine 18 ans. Enfin, j'avais pas 18 ans quand j'ai démarré l'université. Et d'un coup, ben voilà, autonomie, voilà, il faut gérer ses sous, il faut s'organiser, parce que j'ai dû partir de chez moi. Voilà. C'est l'entrée à l'université. Ouais.
Je sais pas si je suis encore passé à l'âge adulte, mais...
C'est pareil.
Je sais pas. Non, peut-être le permis. On est plus indépendant, je sais pas. Je suis parti à Paris un an quand on part de la maison.
Oh, mais c'était beaucoup de souffrance, hein, parce qu'on quitte un monde sans trop de préoccupations pour entrer brutalement dans le monde du travail, donc dans un monde très sérieux, avec des adultes qui se prennent très au sérieux. Donc une difficulté sûrement pour moi à me couler dans le moule.
Et toi Thierry, étais-tu déjà un ado poète?
Non, malheureusement, je n'étais pas un ado poète. En fait, le don de poésie que j'ai recherché en fait plus tard, c'est apparu lors d'une hospitalisation à l'hôpital de Morlaix. Voilà. Bien, je vais vous faire part d'un de mes poèmes qui s'appelle Histoire d'adolescence. Adolescence, quand tu nous tiens, après l'enfance, on devient rien. Premier amour dans le lointain, premier jour sans lendemain. La puberté, on n'en parle pas assez. La liberté, sans y être habitué. Les premiers émois amoureux, les premiers baisers langoureux. Eh bien, tu veux pas sortir avec moi? Eh, tu veux pas ici faire ta loi? Ma copine habite à côté. Hier, ma mobilette a cramé. Les pompiers y sont arrivés à éteindre cette calamité. Diabolement, tout café, première clope au bahut, premier amour perdu, les larmes me viennent sur le visage, je vais me consoler sur le rivage. En attendant le prochain virage, je reprends la vie son sillage. Je refais mon maquillage en attendant le mariage.
To say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Quels ados ces artistes? Magali, tu t'es intéressée à deux d'entre eux, Jim Morrison et Jean-Michel Basquiat.
Oui, effectivement. Certains artistes se révèlent à l'adolescence à la manière d'un génie incompris, instable, fragile, mais brillant. Les ados rebelles ont fortement besoin de s'exprimer. Ils le font souvent dans des activités sportives, mais parfois, c'est dans des expressions artistiques qu'ils trouvent un exutoire à leur quête en musique, art plastique. Je vous propose d'évoquer deux de ces exemples d'adolescents artistes rebelles, Jim Morrison et Jean-Michel Basquiat. James Douglas Morrison, chanteur charismatique et parolier scandaleux des Doors, est né en 1943 à Melbourne d'un père militaire et d'une mère au foyer. Après une prime jeunesse mouvementée qu'il passa avec son frère, sa sœur et sa mère, en déménagement multiple en raison des déplacements que l'armée imposait à son père, ce fan d'Elvis Presley, mais aussi fan de littérature et de poésie, finit par s'établir à Los Angeles, Californie. C'est à cette époque qu'il coupe le pont avec sa famille, l'éducation stricte qu'il avait reçue, l'ayant sans doute prédisposé à les quitter. Morrison correspond à l'image d'un rebelle contestataire des années 1960. Opposé à l'armée, aux politiciens, à la famille américaine modèle, il est considéré comme un révolutionnaire libertaire et amuseur de foule. Cette image est restée dans les mémoires et a profondément marqué nombre d'artistes qui lui ont succédé. Les scandales ont émaillé sa courte vie. De nombreuses arrestations pour exhibitionnisme, insultes à agents et ivresse publique notamment, de nombreuses maîtresses et amants, d'après certains, ont partagé sa couche et les drogues les plus diverses lui seraient passées dans l'organisme. Mais Morrison s'est aussi montré avide d'une reconnaissance peut-être finalement mal assumée. Son image érotique et charismatique, qui lui a en partie valu son succès, l'a également poussé à s'enlaidir afin de montrer au public qu'il est également capable d'écrire et filmer. Il est décédé à 27 ans d'une overdose, usé et ayant vécu en quelques années ce que d'autres mettent en une vie entière à expérimenter. Autre adolescence d'artiste, Jean-Michel Basquiat, né à Brooklyn en 1960. Artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine. Il est un enfant précoce qui apprend à lire et à écrire à l'âge de 4 ans et parle couramment 3 langues à l'âge de 8 ans. Sa mère l'a beaucoup encouragé à développer ses talents de dessinateur. À l'âge de 7 ans, Basquiat est percuté par une voiture alors qu'il joue dans la rue avec ses amis. Il est blessé au bras et souffre de lésions internes qui nécessitent l'ablation de la rate. Pendant sa convalescence à l'hôpital, sa mère lui fait cadeau d'un livre d'anatomie qui l'influencera fortement dans sa première partie de son œuvre. À 15 ans, Basquiat est envoyé dans une école spécialisée dont la méthode d'enseignement s'appuie sur le précepte de l'apprentissage pratique. Il y rencontrera Al Diaz, un graffeur avec lequel il lie une profonde amitié. Il fugue à 16 ans et en est en errance pendant une semaine autour de Washington avant d'être arrêté et ramené chez son père précédemment séparé de sa mère. Il abandonne l'école secondaire, il quitte la maison paternelle d'où il est définitivement banni pour s'installer avec des amis. Il subvient à ses besoins en vendant des t-shirts, des cartes postales dans les rues. Il se met alors à peindre au début des années 80, commence à exposer ses toiles avec pour moteur le désir d'attirer l'attention de Andy Warhol, qui est alors une légende vivante pour les jeunes artistes. Il fera tout pour le rencontrer et aura même une photo de Andy Warhol au-dessus de son lit. Ils finissent par devenir amis, ils créent et exposent ensemble. La mort d'Andy Warhol en 1987 l'affecte énormément et il meurt d'une overdose de cocaïne un an plus tard.
À Bertrand et à toute l'équipe de Micro Standard pour un débat. Alors Bertrand, pour ou contre l'adolescence, quelle part d'adolescent reste en nous ? Es-tu un éternel ado ?
J'allais dire oulala, trois questions comme ça. Hein. Sommes-nous... quelle était ta première...
Donc... es-tu pour ou contre l'adolescence, tout simplement?
Je veux dire, je répondrai un peu en touche. Je dirais que je suis personnellement un éternel adolescent. Bon, pourquoi? Bah, écoute, parce que je pense que, bon, j'allais dire, ça convient. Là, je suis un peu merdique. Ça convient à ma vie, quoi. Bon, c'est, comment te dire, c'est des projets permanents qui ne soit pas spécialement arrêté, ou c'est contre une forme aussi de stabilité.
Ou... Toujours envie de créer ou de...
Oui, de bouger, j'ai envie de te dire de vivre, quoi. Alors que, contrairement, je pense que les adultes s'installent dans des rythmes de vie bien, j'allais dire, tranchés, bien cadrés.
Bien cloisonnés.
Voilà, bien cloisonnés, et que, personnellement, c'est pas du tout le genre de vie dont je rêve, quoi, voilà. Donc je suis pour l'adolescence permanente. Donc,
c'est peut-être un refus de vieillir.
Ah, peut-être, certainement, mais bon, moi j'en ai pas marre de la vie, hein, donc plus je vivrai vieux, écoute, plus je serai content. Pour l'instant, je vise les 100 balais, le siècle.
Le siècle.
Prétentieux. Oui, je suis peut-être un peu prétentieux, mais bon, why not, pourquoi pas, tu vois.
Tu fais pas beaucoup d'Excel dans ta vie, alors?
J'en ai fait. J'ai concentré tout ça entre les excès. Je les ai tous concentrés entre 20 et 40 ans. Alcool, cigarettes,
cigarettes aussi.
Oui, cigarettes, oui.
Même tabac à la fraise?
Oui, le tabac à la fraise, même, même des substances illicites, comme dirait le bon docteur Emery. Et donc, voilà, quoi. J'ai réussi à m'en sortir grâce à des soins efficaces, je dirais. Donc maintenant, je me suis pas soigné. Je considère que je me suis pas soigné pour rien. Donc maintenant, je réclame de vivre jusqu'à 100 balais. Voilà.
C'est ce que je te souhaite.
Bien, je te remercie. Voilà.
Donc resteras-tu un éternel adolescent ?
Oh, ça me fait pas peur, tu sais. C'est plutôt les autres que ça inquiète que moi, je trouve. Bon, c'est vrai que c'est un peu perturbant pour des gens de mon âge, quoi, parce que à chaque fois j'ai le droit à la question: quel âge as-tu? Bon, alors j'en ai marre de répéter, donc je me suis fixé un âge et j'en bouge plus. Je réponds maintenant, je marche de dizaine en dizaine, quoi, maintenant, voilà.
Eh bien, l'émission Micro Standard consacrée à l'adolescence touche à sa fin. Nous vous imaginons chez vous, au bout du poste, perdu dans vos propres souvenirs d'adolescence, comme nous l'avons fait. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous, ce fut un plaisir de partager avec vous cette heure. Nous remercions particulièrement Yann Audran pour sa présence et sa disponibilité. Cette émission a été pensée et réalisée par toute l'équipe de Micro Standard, accompagnée de Anne-Claire et Fabrice, journalistes au Festival Longueur d'onde de Brest. Vous pourrez réentendre cette émission sur cette même chaîne le samedi 6 décembre prochain et le samedi 3 janvier 2015, et bien entendu sur notre site internet, sur lequel vous pouvez aussi réentendre toutes les précédentes émissions, celle-ci était la 21e, sur www.standart.org. À bientôt.
C'était ta dernière, Yvonique. Bonne retraite à toi.
Bonne retraite, Yvonique.
Tu pars vers un autre rite de passage, à mon avis, ça va marcher pour toi.
Merci de votre accompagnement dans les soins.
Merci, à bientôt.
Un grand merci à Yvonique, dont le professionnalisme va nous manquer.
4 ans d'émission radio avec toi, beaucoup d'émissions pour ta dernière, beaucoup de bonne humeur. Merci à toi, Yvonique.
Merci, Maria. On se retrouve sur les ondes.
Merci de t'avoir connue, Yvonique.
Merci, Yvonique.
Belle continuation à tous.
Merci.